Guy de Pourtalès, Les Contes du Milieu du Monde, Gaspard des Fontaines, au professeur Louis Michaud. Pas très loin d'ici est une jolie petite capitale dont je vais vous parler. Si vous avez la patience d'écouter jusqu'au bout, l'histoire de Gaspard des Fontaines. Cette jolie vieille ville est faite de maisons de tous les âges, appuyées les unes aux autres, et de rues qui montent et qui descendent dans tous les sens, comme si elles ne savaient ni où commencer ni où finir, tant elles ont de jolis coins à vous montrer. Malgré sa vétusté, elle est si proprette que le bon Dieu semble prendre la peine de la laver à neuf lui-même chaque matin. Elle est si fraîche et si soignée que des ouvriers paraissent avoir passé la nuit à en repeindre les façades et les fontaines. Et telle est sa coquetterie que le fleuriste renouvelle chaque jour, à chaque balcon et à chaque fenêtre, les caisses de géraniums et de pétunias. Quelle ville plaisante à habiter! En haut de la Grand-Rue et juste à côté de la tour de l'horloge du temps, vivait, dans une vieille maison noble, le petit Gaspard. Il n'était ni plus joli ni plus laid qu'un autre, le petit Gaspard. Mais quels yeux excellents il avait! Quelle délicate oreille, quel nez fin, quelles mains adroites! Rien ne lui échappait de ce qui, par les rues, s'envoie, s'entend et se renifle. Il pouvait vous dire, les paupières fermées, devant quelle boutique des arcades vous vous trouviez, si c'était telle charcuterie ou telle autre, telle épicerie ou telle autre, tel confiseur, tel pharmacien, tel magasin de chocolat ou tel marchand de fruits et de légumes. Il savait l'heure qu'il était, rien qu'à la marche de l'ombre lorsqu'elle descend des grands toits solennels sur les façades seigneuriales. Il pouvait dessiner, de manière tout à fait ressemblante, les belles maisons de son quartier. Celle qui est à l'enseigne du Mort, par exemple, ou celle du Lion dressé, ou celle de l'Arquebusier, et même les statues du duc Berthold, fondateur de la cité, ou celle d'Anna Seller, fondatrice du grand hôpital. Mais ce qu'il s'amusait à faire le plus volontiers, c'était les petits oursons qui défilent aux 12 coups de midi devant le cadran de l'horloge du temps. Les uns tiennent leurs instruments de fanfare, un autre est à cheval, et là-haut, au sommet de la tour, le jacquemart frappe sur sa grande cloche d'airain. Et tous sont authentiquement et sur bon parchemin bourgeois de la cité. L'horloge et les fontaines, c'était la spécialité de Gaspard. Il avait tant regardé de sa fenêtre la ronde des ours, tant joué et polissonné autour des fontaines, qu'il en conservait chaque détail dans sa mémoire. Aussi, s'il ne savait jamais ses leçons à l'école, et qu'il fût toujours le dernier de la classe, du moins pour le dessin, venait-il toujours le premier. Ces mauvaises notes faisaient naturellement le désespoir de ses parents. Son père était un important banquier, comme l'avait été son grand-père et son arrière-grand. Sa mère était si pâle, si douce, si rêveuse, que vous l'eussiez prise, derrière ses rideaux de percale, pour quelques dames blanches des anciens temps. Comme elle ne surveillait guère son fils et que monsieur le banquier, conseiller de la ville, partait de bon matin pour son bureau, Gaspard se trouvait livré à lui-même, et surtout aux hasards et aux tentations qui viennent assaillir les petits garçons dès qu'ils ont tourné le coin de la rue. Il sifflait sur sa clé, s'arrêtait aux devantures intéressantes, causaient dans leur langage avec les soldats de plomb, les bateaux, les couteaux à 10 lames, les caravanes de chameaux et les chevaux de bois. Mais à tous ces petits personnages de luxe enfermés derrière leurs vitrines, ils préféraient de beaucoup ces grands et solides amis des fontaines. Voici quelles étaient ces fontaines. Il y avait d'abord la fontaine de Moïse, où un vieil homme, barbu et cornu, sorti tout droit de la grosse Bible de famille, avait grimpé tout en haut de sa colonne pour vous présenter les tables de la loi. Il y avait ensuite la fontaine de la justice, qui est une dame aux yeux bandés, tenant d'une main une épée et de l'autre sa balance. La fontaine où le banneret Brugler brandit dans sa dextre l'étendard de la ville. La fontaine où Samson déchire le jeune lion. Mais il y avait surtout la fontaine du cornemusier, jouant de sa cornemuse pour charmer son oie. Celle du duc Berthold, qui est un ours debout, homme en tête, et le corps vêtu d'une cotte de maille, comme un chevalier. Et enfin, la fontaine de l'ogre. Ah, le brave, le délicieux ogre, pensait Gaspard en lui faisant visite. Assis en haut de sa colonne, une grappe d'enfant dans son bras gauche, il tenait dans sa main droite un tout petit garçon qu'il portait à son énorme bouche et dont il allait justement croquer la tête. Mais dès qu'on le regardait, il s'arrêtait de manger et faisait semblant d'être en pierre, le vieux rusé. « Est-il bon ?» demandait Gaspard en contemplant pour la 100e fois le monstre affamé. Et l'ogre clignait de son gros œil blanc et répondait « Excellent, ami Gaspard, excellent. Prends garde seulement que ton tour ne vienne bientôt. » Mais Gaspard riait, car il n'avait pas peur de l'ogre. Il croyait, comme tout le monde, que l'ogre était enchaîné pour toujours à sa fontaine et qu'il n'en pouvait descendre. Alors il se mettait à causer avec les oursons qui marchent les uns derrière les autres sur le fût de la colonne, leurs armes dans une patte ou sur l'épaule, en faisant de drôles de grimaces. Et les oursons demandaient à Gaspard « Est-ce que tu ne vas pas à l'école aujourd'hui ?»« Non, répondait-il, cela m'ennuie trop. » « Mais alors, tu ne sauras jamais que t'amuser, chanter et dessiner ?»«
Cela me suffit bien, » répondait Gaspard.
« Mais alors, tu ne sauras jamais faire l'exercice comme nous, » reprenaient les oursons.
« Je me moque de vos exercices, » répliqua Gaspard.
« Et tu ne seras jamais ni riche ni utile à ta patrie, » disaient encore les oursons. « Et avant que tu sois grand, » l'ogre te mangera, comme il a mangé tant d'autres petits garçons et petites filles inutiles. » Gaspard n'en riait que plus fort, et l'ogre disait de sa grosse voix « Gaspard restera toujours un enfant, il ne vieillira pas, et j'aurai bien du plaisir un jour à le croquer. » Gaspard lui faisait la nique et rentrait dans sa chambrette, se remettait à chanter, à dessiner ou à faire des bonshommes de bois avec son couteau. Or, voilà qu'un matin, entendant sonner à la porte de la cuisine, il alla ouvrir lui-même et se trouva en face d'un tout petit homme à longue barbe grise qui portait un lourd panier. Ayant grimpé sur un escabeau, le petit homme hissa son panier jusque sur la table, en ôta le couvercle, et Gaspard et la cuisinière en tirèrent quantité de jolis ours de bois, de chalets aux galeries ajourées, de hiboux aux gros yeux verts, de chamois à jambes fines, de têtes de nains et de sorcières en forme de casse-noisette. Et enfin, l'ogre lui-même, qui semblait le menacer de son gros œil blanc. Gaspard eut tant de joie à tourner et à retourner ses objets entre ses mains qu'il voulut les acheter tous.
mais bien entendu que ni la cuisinière ni sa mère ne le lui permirent. Il lui fallut se contenter d'un ours et d'un hibou. Seulement, cette nuit-là, comme il venait de se mettre au lit, il vit les deux yeux du hibou qui s'allumaient comme des lanternes en haut du vieux poêle de faïence où on l'avait placé. « Gaspard, chuchota le hibou, si tu viens avec moi demain soir, à la nuit tombante, je t'emmènerai chez le petit gnome barbu, car je sais où il demeure, et tu apprendras à sculpter et à travailler le bois. » Aussi, Gaspard ne manqua-t-il pas de partir le lendemain soir, en cachette, et le hibou, qu'il avait fourré dans sa poche, lui indiqua le chemin. C'était un peu en dehors de la ville, une vraie maison de poupée qu'un buisson de lilas et quelques framboisiers suffisaient presque à dissimuler en entier. Gaspard entra dans la petite maison, et lorsqu'il s'y fut assis, sa tête touchait le plafond, et il dut faire attention à chacun de ses gestes pour ne rien casser ou ne rien jeter par terre, tant il se trouvait là-dedans de bêtes sculptées, de chalets, de pendules coucou, d'assiettes peintes, de coffrets et de porte-parapluies en forme d'ourson. Il ne pouvait se lasser de les regarder, de les caresser, d'en flairer le bois, d'en étudier les moindres détails. « Est-il vrai que tu veux apprendre notre bel art de sculpter ?» demanda le gnome, très fier de l'admiration qu'il suscitait. Oui, certes, dit Gaspard, tous mes vœux seront comblés quand je saurai fabriquer un ours qui tête sa bouteille, comme celui-ci, ou un porte-plume en forme d'Edelweiss, comme celui-là. Apprends-moi à sculpter et je te donnerai tout ce que tu voudras.
Voilà une promesse qui ne te coûte pas cher, dit le gnome. Car, pour autant que je sache, tu n'as rien à m'offrir, Gaspard.
« Je serai riche plus tard, m'a-t-on dit. Je te paierai quand je serai grand. »«
Mais, Gaspard, dit le gnome, l'ogre m'a dit que tu ne serais jamais grand. »
Néanmoins, ils conclurent marché, et le fils du banquier et grand conseiller de la ville vint dès lors tous les soirs apprendre à sculpter. Et il fut bientôt aussi habile que son maître. Seulement, il est parfaitement vrai qu'il ne vieillissait pas. Il grandissait en stature, mais non en esprit. Sa mère se désolait de le voir rester plus enfant que des enfants beaucoup plus jeunes que lui. Et le père avait honte de son fils. Car à 17 ans, Gaspard n'était guère plus avancé qu'à 10. Il ne savait lire qu'en suivant chaque ligne mot à mot avec son doigt. Et on le trouvait encore causant à haute voix avec les fontaines, sifflant sur sa clef toutes sortes d'air et jouant aux billes avec les garnements.
« Comment feras-tu plus tard ?» demandait sa mère, soucieuse, « lorsqu'il te faudra aller au bureau. Qui feras-tu ? Que deviendras-tu ? »
« Mais je n'irai jamais au bureau, » répondait Gaspard.
« Et qui donc succédera à ton père ?»«
L'ogre, » disait-il en riant. Monsieur le conseiller de la ville dissimulait sa déconvenue du mieux qu'il pouvait. Et pour qu'on ne se moquât pas de lui et de son anon de fils, il l'envoya chez ses correspondants à l'étranger, comme cela se pratique entre banquiers. Mais il n'osait demander de ses nouvelles. Cependant, il sut une année que Gaspard avait appris à coller des timbres sur les enveloppes, une autre année qu'il y mettait les adresses, une autre encore qu'il savait assez bien à présent son métier de banquier, c'est-à-dire écouter en silence les clients, hocher la tête d'un air entendu, avoir fermement une opinion et l'opinion contraire, écrire des chiffres sur son buvard pendant qu'on vous parle, et surtout, garder en toutes circonstances un visage impénétrable mais confiant. Ceci, il est vrai, ne coûtait pas grand-peine à Gaspard, parce qu'il pensait durant tout ce temps-là à l'écureuil ou au lapin qu'il était en train de sculpter. Sur ces entrefaites, son père mourut un soir de Noël. Gaspard s'embarqua pour rentrer chez lui par le premier bateau et il arriva dans la vieille maison, en face de la tour de l'horloge, au début de la nouvelle année. Madame sa mère, tendrement embrassée, monsieur son père dûment enterré et pleuré, Gaspard retrouva sa chambre d'autrefois, le hibou en haut du poêle, sa bonne tour de l'horloge et ses amis les fontaines. À la première nuit de pleine lune, il sortit pour leur rendre visite et ce fut une vraie fête en haut des colonnes. Moïse agitait ses cornes et ses tables en signe de bienvenue. La justice souleva un instant son bandeau pour sourire à Gaspard. Le cornemusier gonfla ses joues tristes et joua un air mélancolique. Quant à l'ogre, il fit semblant de croquer un petit garçon, roula son œil blanc et ordonna aux oursons de danser une ronde d'honneur pour saluer le retour du voyageur. Puis, la mère de Gaspard dit à son fils « Et maintenant, mon enfant, il va falloir que tu prennes la place de défunt ton père au bureau. Tu as été absent durant bien des années. Sans doute es-tu devenu fort savant dans les finances et sauras-tu maintenir l'honneur de la maison, bien que je te trouve toujours le visage d'un petit garçon. Mais les mères ne voient point vieillir ceux à qui elles ont donné le jour. Gaspard n'osa rien répliquer. Et dès le lendemain, il se rendit à la banque pour la première fois de sa vie. Les vieilles gens qui passent derrière leurs fenêtres les trois quarts de leur journée s'écrièrent en le voyant. « Voilà Gaspard, le fils du conseiller, qui s'en va prendre la succession de son père. Il est bien jeune pour porter une si lourde responsabilité. » Mais Gaspard, ne sachant point ce qu'était une responsabilité, ni qu'il portait autre chose que ses crayons, ses limes et son couteau à trois lames, Gaspard arriva en souriant au bureau. Il y fut reçu par monsieur le fondé de pouvoir, les 20 employés alignés au garde-à-vous et le vieux Fritz, le respectable portier à favoris blancs, qu'enviait à la banque du feu conseiller toutes les autres banques de la ville. Gaspard ne savait quoi dire à ces 22 messieurs, et les 22 messieurs savaient encore moins que lui répondre. Alors, le vieux Fritz s'avança au-devant du jeune homme, s'inclina jusqu'à terre et dit « Je pense, monsieur Gaspard, que tout continuera de marcher ici comme au temps du défunt maître. » « Certainement, dit Gaspard. Messieurs, continua le portier, il ne vous reste donc plus qu'à retourner à vos pupitres. » Les 21 saluèrent et repérèrent leur travail un instant interrompu. « Et moi ?» demanda timidement Gaspard. « Mais sans doute irez-vous lire, bâiller et rêver dans le fauteuil de monsieur le conseiller, votre vénéré père, comme celui-ci l'a fait pendant 40 ans, pour la tranquillité de l'honorable clientèle et la gloire de la maison, » dit le vieux Fritz en s'inclinant de nouveau jusqu'à terre. Et Gaspard alla s'installer dans le fauteuil paternel, tira ses outils de sa poche et se mit le plus tranquillement du monde à fignoler un joli cheval noir auquel il ne manquait plus qu'un sabot. Le soir, il alla voir ses chères fontaines pour prendre leur conseil. Moïse lui dit dans sa longue barbe « Que la loi de tes pères soit ta loi. » Et la justice, « Mets un bandeau sur tes yeux, comme j'en ai mis un sur les miens. » Et Samson, « Tords le cou au lion, mais laisse en paix les agneaux. » Et le cornemusier, « Joue et chante pour les oies qui viendront à ta porte comme je joue et chante pour la mienne. »
Et l'ours du duc Berthold, « Achète-toi une cuirasse pour te garer des coups et une muselière pour ne pas mordre. »
Alors, le pauvre Gaspard, ne sachant à quoi se résoudre, alla encore consulter l'ogre.
Et l'ogre dit
« Gaspard est resté aussi bête et aussi tendre qu'autrefois. Nous le garderons pour notre dessert, car sa chair de fils de famille sera certainement délicieuse. Mais nous le laisserons encore longtemps en vie. Ce ne sont pas les plus bêtes qui sont les moins utiles. »
Gaspard alla donc désormais chaque jour au bureau, comme le désirait tant sa mère, et il suivit les traces du conseiller. Il mit un bandeau sur ses yeux lorsqu'il fallut ne pas voir clair. Il cousit sa bouche lorsqu'il fallut ne pas parler. Il se vêtit d'une cuirasse d'indifférence et apprit à jouer de la cornemuse pour se charmer lui-même. Mais surtout, il continua de sculpter. Grâce au vieux Fritz, qui se trouvait être le cousin du gnome, le cabinet du conseiller fut bientôt meublé d'un établi et les armoires vidées de leurs registres se garnirent d'outils de toute espèce. Aussi le portier ne conduisait-il les clients que chez monsieur le fondé de pouvoir, où se traitaient toutes les affaires. Si quelqu'un demandait à voir monsieur Gaspard, « Cela est impossible aujourd'hui, disait-il. Monsieur est en conférence. » Et le client, sur la pointe des pieds, s'en allait. Bientôt, il ne fut plus question en ville que du jeune et invisible banquier. Ses affaires devinrent de mois en mois et d'année en année plus prospères. De toutes parts, on demandait à le voir pour prendre son avis. Mais le vieux Fritz montait la garde avec le même zèle devant sa porte et répondait imperturbablement « Impossible aujourd'hui. Monsieur est en conférence. » On s'étonnait seulement que le visage de Gaspard restât toujours celui d'un enfant. La ville continuait de s'agrandir et de se peupler d'habitants nouveaux, tandis que vieillissaient peu à peu les anciens et qu'on les emmenait au cimetière les uns après les autres. Madame la conseillère y fut conduite aussi un jour d'hiver. Cependant, trois personnes demeuraient exactement les mêmes. Notre Gaspard, le vieux portier Fritz et le gnome du chalet des framboisiers. Mais personne ne se doutait que l'ogre les avait ensorcelés tous les trois. Avec le temps, Gaspard fut à son tour nommé conseiller de la ville, comme l'avait été son père. C'est lui qui fit remettre l'hôpital à neuf, achever la cathédrale, garnir de lauriers roses l'escalier de la maison de ville et orner de fleurs ses amis les fontaines. On l'écoutait plus volontiers que d'autres parce que, disait-on, il parlait comme un enfant, et les enfants ont parfois l'autorité des poètes. Il continua donc de sculpter, de tailler, de creuser, de tourner, d'évider, de découper, de coller, d'assembler dans le secret de son bureau. Le vieux Fritz continua de monter la garde devant la porte et de répondre aux visiteurs. Monsieur est en conférence. Le petit gnome continua de vendre aux marchands de la ville tous les petits ours, les chalets, les chamois, les hiboux, les plumes à Edelweiss et les coffrets à musique que Gaspard fabriquait. Et comme on venait maintenant de tous les coins du monde pour en acheter, le vieux Fritz transporta dans le bureau de monsieur le fondé de pouvoir tous les papiers qui encombraient la cave pour mettre à leur place les sacs d'or gagnés par son maître. Mais, hélas, la guerre éclata. La ville fut ruinée en quelques mois. Et quand vint l'hiver, on ne put acheter ni charcuterie, ni fruits, ni légumes pour se nourrir,
ni charbon pour se chauffer, ni bière, ni vin pour oublier ses misères. » Alors, Gaspard fit distribuer par ses 21 employés tous les sacs d'or entassés dans sa cave, en commençant par les familles les plus pauvres. Et ainsi, les citoyens purent de nouveau se procurer de quoi manger, boire et se chauffer pendant un certain temps. Malheureusement, la provision d'or s'épuisa peu à peu, car, à cause de la guerre, le gnome perdit, l'une après l'autre, toutes ses pratiques. Un nouvel hiver s'ouvrit, qui devait être terriblement rigoureux. Bientôt, les grands toits pointus, les clochetons et la tour de l'horloge se couvrirent de neige. Puis les carreaux se changèrent en fougères, en branchettes, en épines de glace au travers desquelles on ne pouvait plus rien voir. Les rouges-gorges et même les corbeaux vinrent se poser sur les balustrades de fer forgé et frapper aux fenêtres pour mendier un peu de pain. Mais personne n'avait de miettes à gaspiller. En décembre, le froid devint encore plus vif et les rivières gelèrent. Alors le conseil se réunit et voulut démolir les fontaines afin que le peu d'eau qui restait servît au moins pour boire et se laver. Mais Gaspard s'y opposa de toutes ses forces et comme il avait sauvé une première fois la ville en distribuant ses sacs d'or, personne n'osa le contrarier. Cependant, Noël fut bien triste, et la Saint-Sylvestre s'annonçait plus triste encore. Pas de jouets dans les magasins, pas de souliers dans les cheminées. Les gens se blottissaient autour de leurs poêles et se racontaient que le Jacquemart en haut de la tour ne frappait plus la cloche avec son marteau parce que les heures sonnées gelaient aussitôt dans les airs. Gaspard, lui, essayait de se réchauffer en rabotant, en sciant, en martelant, à son habitude. Lorsque, le soir du 31 décembre, entre chien et loup, un pas lourd se fit entendre dans l'escalier, suivi de petits pas plus légers. La porte s'ouvrit, et le vieux Fritz, casquette en main et faisant mille courbettes, annonça solennellement: Son Excellence, Monseigneur l'Ogre et sa suite. C'était en effet l'ogre de la fontaine avec deux petits oursons. Tous trois s'assirent modestement par terre et commencèrent par admirer les innombrables figures d'ours, d'oursons, d'ogres, de cornemusiers, de bannerets, de justices et de Sansons qui remplissaient la pièce. Puis, l'ogre prit la parole et dit « Petit Gaspard, tu as été pour nous depuis longtemps un ami dévoué. Grâce à toi, l'eau coule encore aux fontaines et nulle d'entre elles n'a été démolie. Lors donc que tu nous as sauvé la vie, tu as le droit de faire deux vœux et ils seront exaucés, quels qu'ils soient. Si, en échange, tu acceptes d'être mangé quand ton heure aura sonné à l'horloge de la tour. Réfléchis bien à ce que je te propose et dis-moi si deux de tes désirs te semblent valoir autant que ton corps de gentilhomme. » Gaspard réfléchit un moment et répondit: « Monsieur l'ogre, je te cède mon corps bien volontiers, si à ton tour tu m'accordes ceci. D'abord, tu rempliras mes caves de sacs d'or, afin que je puisse continuer à nourrir et à chauffer mes concitoyens jusqu'à la fin de cette terrible guerre. » Accordé, dit l'ogre en levant un doigt pour jurer. Et chacun des oursons aussi leva sa jeune griffe. Tu me permettras ensuite, au jour de ma mort, d'avoir en main l'épée de mon ami la justice et l'étendard du banneret. On m'attachera autour du cou la cornemuse du cornemusier, et on mettra sur ma tête le haume de notre seigneur le duc, Je n'en demande pas davantage.
Accordé, dit l'ogre en riant de son énorme bouche.
Je vois, mon pauvre Gaspard, que tu es toujours aussi bête qu'autrefois. Mais ce qui est promis est promis.
Et de nouveau, il leva le doigt pour jurer. Et chacun des oursons fit de même. Puis l'ogre se dépêcha de s'en aller, car il lui fallait remonter sur sa colonne au plus vite pour que ni la police ni les passants ne remarquassent son absence. Mais il fit si froid cette nuit-là que chacun resta chez soi, et les gendarmes, ayant tiré leur bonnet fourré plus bas que leur nez, ne s'aperçurent de rien. Le lendemain matin, toute la ville apprit la bonne nouvelle. L'or fut distribué le jour même à plein sac. Et si Noël avait été bien triste, le premier de l'an fut fort joyeux. Grâce à Gaspard, on put remplir à la fois les magasins des marchands et la bourse des acheteurs. Aussi, lorsque, peu de temps après, la guerre se termina, la banque vit affluer une clientèle si nombreuse qu'il fallut agrandir ses locaux et tripler le nombre de ses employés. Mais Gaspard n'en continua pas moins de raboter, sculpter, tailler, creuser, tourner et vider, découper, coller et assembler au fond de son bureau. Et le vieux portier Fritz continua de répondre aux visiteurs qui demandaient à voir le directeur.
Impossible aujourd'hui. Monsieur est en conférence. Et le petit gnome recommença de vendre au boutiquier les chefs-d'œuvre de son élève.
Ainsi, des dizaines et des dizaines d'années s'écoulèrent encore. Et plus tard, beaucoup plus tard, lorsqu'on eut oublié tout ce que Gaspard avait fait pour sa ville et ses concitoyens, car on oublie vite les bienfaits. Les vieilles dames derrière leurs fenêtres le montraient du doigt quand il passait et s'écriaient « Voilà le conseiller Gaspard qui revient de son bureau, où il a passé toute sa vie à travailler et à s'enrichir, en vieil avare qu'il est. On dit qu'il a 100 ans, qu'il est tombé en enfance et qu'il cause avec les fontaines. » Alors, les gamins couraient derrière lui en riant et en se poussant du coude, car il lui arrivait souvent, en effet, de marmotter tout seul. Ou bien, lorsqu'il s'arrêtait au marché pour nourrir pigeons et moineaux qui venaient se percher sur ses épaules et son chapeau, les enfants dansaient et sautaient autour de lui. Et quelquefois, le vieux Gaspard se mêlait à leur jeu et prétendait n'avoir que 12 ans, ce qui divertissait cette mauvaise graine. Mais un jour qu'il jouait ainsi à saute-mouton, il tomba contre une borne et resta tout étourdi, la face contre terre. Le voyant couvert de sang, les gamins prirent la fuite. Gaspard parvint à se relever et à se traîner chez lui. Et en passant sous la tour de l'horloge, il voulut regarder l'heure. Or, bien qu'il fût tout juste midi, l'horloge ne sonna point. Les 12 petits ours ne sortirent pas de la tour. Et le jacquemart resta le bras en l'air, sans frapper sur sa cloche. Alors, Gaspard comprit que son heure était venue. Il se mit donc au lit dans la chambrette qui avait toujours été la sienne. Puis il fit sa dernière prière et dit au vieux Fritz d'aller chercher 4 hommes pour le porter sur une civière à la fontaine de l'ogre, afin que celui-ci pût le manger, comme il avait été convenu jadis entre eux. Car, ainsi que disent les banquiers, il voulait faire honneur jusqu'au bout à sa signature. Le vieux portier alla donc chercher en pleurant la civière et les 4 hommes, et la nouvelle s'en répandit dans le quartier. Bientôt, toute la cité fut en rumeur. On se rappela soudain
que Gaspard avait donné au peuple non seulement tout son or au temps de la disette, mais encore tout son cœur et son travail au temps de la prospérité. Aussi, quand on porta le mourant vers la fontaine de l'ogre, une foule innombrable le suivit en pleurant, comme pleurait le vieux Fritz. Le pauvre Gaspard était recouvert du drap mortuaire des familles nobles. La cloche de la cathédrale sonnait le glas, et l'ogre, en haut de sa colonne, apprêta son énorme mâchoire. Mais quand on retira le drap noir, voilà que Gaspard se trouva casqué, masqué et cuirassé comme l'ours du duc Berthold. Il tenait dans une main l'épée de la justice, dans l'autre l'étendard du banneret. Et la cornemuse jouait toute seule la mélodie mélancolique du cornemusier. Aussi l'ogre eut beau chercher à dévorer sa victime, il n'y parvint pas. Ou bien l'épée lui piquait les lèvres, ou bien l'étendard se mettait en travers de sa bouche, ou bien le casque ducal lui brisait les dents, ou bien le chant de la cornemuse lui donnait un frisson de peur. Alors l'ogre s'écria : « Je vois bien, Gaspard, que tu n'étais pas aussi bête que je le pensais, puisque toi seul as pu vaincre le mauvais sort. » Et dans le même instant, l'ogre devint de pierre pour jamais. Et dans le même instant encore, Gaspard rendit le dernier soupir. Et toujours dans le même instant, le vieux portier Fritz tomba, raide mort. Puis il se fit un bruit étrange sur le porche de la cathédrale. Tous les petits personnages qui s'y trouvaient sculptés, saints, anges ou démons, se mirent à agiter leurs bras, comme pour souhaiter la bienvenue à quelqu'un. Et l'on vit deux colombes apportant dans leur bec les deux vieilles âmes qui manquaient seules au paradis. Et le gnome ? Demanda Monsieur le Songe après un moment de silence. « Je m'intéresse à ce pauvre vieux gnome qui était ensorcelé par l'ogre lui aussi, s'il m'en souvient bien. Pourquoi n'en parlez-vous plus ?»« C'est que son destin est assez triste, répondit Madame la Lune, car c'était elle qui avait raconté cette longue histoire. L'ogre ayant oublié de le désensorceler, et la mort ayant oublié de le prendre, le pauvre gnome continua et continue encore aujourd'hui à vendre des ours en bois sculpté, des hiboux aux yeux verts et des coffrets à musique. J'en vois fréquemment lorsque j'ai le temps de jeter un reflet dans une vitrine de magasin. Seulement, depuis que Gaspard est au ciel et ne doit plus toucher à ses outils, les objets que vend le gnome sont beaucoup moins jolis qu'autrefois. On dirait qu'il leur manque quelque chose, ce je ne sais quoi qui faisait leur beauté, le charme, le bon goût, l'art, vous comprenez ? Je crois plutôt que c'est l'amour, dit Monsieur le Songe.